Bonjour à tous et bienvenue sur le CKB Show. Aujourd'hui, nous avons un programme très particulier et je vais vous présenter une personne qui va vous en parler, mais je ne vais pas vous la présenter tout de suite. Le programme qui est particulier, on va vous parler de Stadia. Et oui, pour une fois, on va sortir un petit peu des Chromebook. Quoique, on va y rester quand même. Et la personne qui va nous en parler n'est pas Thomas. Et oui, Thomas ne peut pas être là aujourd'hui. J'ai d'ailleurs une toute petite pensée pour lui, mais enfin une grosse pensée pour lui. Mais on perd pas trop au change puisque on a un super rédacteur de Stadia dédié à Stadia sur mychromebook.fr. Je vous présente à tous Gaëtan. Alors vous le connaissez plus sous le nom de Chez Moi. Bonjour Chez Moi, comment vas-tu ?
Ça va et toi ?
Eh ben écoute, ça va bien. Heureux de te recevoir sur le CKB Show. C'est une première pour toi. J'espère qu'il y en aura plein d'autres après. Est-ce que tu es chaud pour parler de Stadia ? Est-ce que tu as envie d'en parler à tous nos auditeurs qui, eux, ne savent peut-être pas encore ce que c'est ?
Ah, j'ai plein de choses à dire. Vas-y.
Alors bon, bah c'est cool. On va résumer, on va parler un petit peu de Stadia parce que Google Stadia, tout le monde en parle. Enfin, beaucoup de monde, ceux qui sont proches du jeu vidéo. Mais en fait, personne ne sait vraiment de quoi il parle. Google Stadia... Gaëtan, est-ce que tu sais ce que c'est et est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ?
Alors, Stadia, c'est un service de jeux vidéo par streaming. C'est-à-dire que au lieu d'avoir les calculs qui sont faits sur ta console ou ton ordinateur, quelque chose comme ça, les calculs sont faits sur l'ordinateur de Google qui est très très loin ou pas forcément, enfin sur l'ordinateur de Google, et on reçoit juste le flux vidéo sur notre écran et on envoie les informations avec clavier souris ou manette. Mais en fait, tous les calculs se font à distance.
Donc ça veut dire que si j'ai un ordinateur, un DX486 qui tourne avec Windows 7 ou non, Windows 98 et Chrome dessus, je peux jouer à Google Stadia.
Alors à partir du moment où tu as un ordinateur qui peut faire tourner la version récente de Chrome, parce que s'il est trop vieux, il ne pourra pas, ouais. Tu peux sans problème jouer à Stadia. En fait, il suffit que tu ouvres un onglet Chrome, tu vas sur stadia.com et tu peux le lancer. Fait que même si tu as un PC qui a une toute petite config, quelque chose qui ne sert qu'à faire que de la bureautique, ou des choses comme ça, tu peux jouer à Stadia.
Donc, alors, tu dis, tu parles PC, mais PC, c'est donc les Chromebooks, c'est les PC qu'on entend sous Windows, hein, puisque souvent les gens en parlent de PC pour parler de Windows, mais également Linux, macOS, et aussi les smartphones, les tablettes, hein, si j'ai bien compris.
Alors, pour les smartphones et les tablettes, il va y avoir une liste de compatibilité. Ouais. Pour l'instant, c'est essentiellement les smartphones Google qui sont concernés, mais à long terme, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur d'autres. Ah ouais. Mais en gros, c'est n'importe quoi qui est capable de se connecter à Internet devrait potentiellement pouvoir le faire.
D'accord. Donc, tu l'as déjà testé un petit peu dans mes... C'est mon petit doigt qui vient de me le dire.
Il sait plein de choses.
Il sait beaucoup de choses, mon petit doigt. Alors, moi, j'ai écouté plein de choses partout avant de me faire ma propre idée, avant de lancer mon clavier et ma souris sur un jeu où je tue tout le monde. Tout le monde parlait de... Stadia, c'est le Netflix du jeu vidéo. Tu sais, le truc, on choisit, on clique sur la jaquette, on clique sur la pochette, sur la couverture, et paf, on joue gratuitement à tous les jeux de la Terre. Est-ce que tu peux m'éclaircir un petit peu là-dessus ? Parce que je crois qu'il y a eu des biais pris par beaucoup de journalistes.
Alors oui, effectivement, c'est le cas. Il faut dire que la communication de Google n'a pas été très très claire là-dessus. Donc, grosso modo, l'interface de Stadia, elle ressemble beaucoup à l'interface de Netflix. C'est-à-dire que vous arrivez sur une espèce de catalogue, vous dites « je veux jouer à tel jeu », vous cliquez et le jeu, il se lance. De la même façon, quand on arrive sur Netflix, on arrive, on veut voir tel film ou telle série, on clique et elle se lance. La grosse différence, c'est qu'en fait, sur Netflix, on paye un abonnement par mois qui donne accès au catalogue complet et que sur Stadia, on paye au jeu si on a un compte basique. Et on a accès à des jeux gratuitement que si on a un abonnement pro. Mais dans tous les cas, on n'a pas accès au catalogue complet gratuitement une fois qu'on a payé l'abonnement.
Donc, il faut s'acquitter d'une licence à chaque fois qu'on veut jouer à un jeu supplémentaire.
Bah, exactement comme une console, en fait. Le problème, c'est que vu que Stadia tourne essentiellement sur PC, beaucoup ont voulu faire la comparaison avec la façon de jouer sur PC ou du Netflix, des choses comme ça. Alors qu'en fait, Stadia, c'est ni plus ni moins qu'une console en cloud. En gros, la console n'est pas chez nous, chez Google, et notre ordinateur ou Chromecast ou tablette smartphone sert uniquement à se connecter à cette console distante. Mais au niveau de la façon de consommer les jeux, c'est exactement comme une console. On achète une Xbox ou une PS4, il faut acheter les jeux derrière, sauf si vous prenez un abonnement type PSN Plus ou Xbox Live qui vous donne deux jeux gratos par mois. Ce qu'a mis en place Stadia aussi. si on a un compte pro à 19,99 par mois, Stadia propose d'avoir des jeux gratuits qu'on conserve tant qu'on a un abonnement. Le jour où l'abonnement est arrêté, on n'a plus accès aux jeux, mais dès qu'on réactive l'abonnement, on a un nouveau accès à ces
Alors,
jeux.
Je te corrige juste un petit peu, je sais que tu aimes ça. C'est pas 19,99, c'est 9,99 sur Stadia.
Ah pardon, oui, je me suis trompé.
C'est encore moins cher, tu te rends compte ? C'est un truc de fou. Tu viens d'économiser 10 balles. Donc tu m'as pas. C'est énorme, hein ? Moi, je suis comme ça, moi, j'ai le cœur sur la main. Qu'est-ce que tu veux, c'est Noël, il va quand même falloir m'acheter des cadeaux. Donc du coup, le cloud gaming, tu m'as parlé du cloud à distance, tout ça. Cloud gaming, c'est en fait, donc comme tu le disais, c'est un accès à un serveur distant, on peut jouer à ces jeux, c'est stocké sur des serveurs, donc. Mais c'est en France, on connaît un acteur qui fait parler beaucoup de lui, qui s'appelle Shadow PC. C'est un peu la même chose, finalement. Donc quel est l'intérêt de passer sur Stadia et pas sur Shadow?
Alors, c'est pas du tout la même utilisation et c'est pas du tout la même cible. Shadow, ça va viser les gamers PC. Aujourd'hui, si on veut jouer sur PC, il faut quand même changer sa configuration assez régulièrement si on veut avoir les graphismes au plus haut et vraiment les dernières sorties. Pour éviter d'avoir à racheter du matériel tous les deux ans, enfin régulièrement, au lieu de s'embêter avec ça, on peut prendre un compte chez Shadow qui, eux, ont des serveurs en France, donc, et qui augmentent leur config régulièrement. C'est-à-dire que pour un abonnement qui doit être à, si je me trompe pas, 29 euros, mais je ne suis pas sûr de mon coût.
Ils sont en train de baisser actuellement leur tarif.
Ouais, voilà, à la base, ils avaient un abonnement à 29 euros qui va descendre à 19, je crois. Mais... on a accès en fait à un ordinateur gamer surpuissant, mais distant. Mais ça reste un ordinateur, c'est-à-dire que quand vous vous connectez sur votre Shadow, que ça soit par votre ordinateur, de la même façon, vous avez ou un vieil ordinateur ou un petit boîtier qui permet de se connecter dessus. Mais quand vous arrivez, vous êtes sur une interface de PC. Vous avez un Windows 10, vous pouvez installer Steam, vous pouvez installer tous vos jeux que vous avez déjà achetés si vous avez un PC à la maison, que vous avez déjà acheté des jeux. Mais ça reste vraiment un PC complètement déporté. Mais toute l'entité de l'ordinateur, Lucien, avec un système d'exploitation qu'on connaît. Si vous utilisez un Shadow pour bosser sur Word, faire du montage vidéo, du montage audio, enfin vraiment utiliser un ordinateur, ça, c'est complètement adapté. Alors que Stadia, c'est uniquement du jeu vidéo. C'est vraiment une console dont les calculs sont faits sur un serveur. Mais on n'a pas accès à un système complet, on arrive, on a juste l'interface Stadia. D'ailleurs, pour avoir accès au catalogue de jeux, c'est même pas par l'interface de Stadia, mais par votre téléphone portable, par l'application Stadia qui est dessus. Et vraiment, c'est d'utilisation différente. Donc, Shadow, c'est un PC complet déporté. Stadia, c'est une console déportée.
C'est ça la différence. Donc, il y en a un, c'est un PC. Donc, avec toutes les difficultés qu'on peut y avoir si on maîtrise pas l'outil informatique, hein, l'installation à distance, les choses comme ça. Pour ceux qui ont encore envie de mettre un CD dans le lecteur CD pour installer un jeu, avec Shadow, ça sera plus possible forcément puisque c'est déporté. Donc, il va falloir télécharger Steam et compagnie pour jouer. Sur Stadia, bah, c'est un catalogue. On clique, ça marche. Donc, c'est le côté hyper simple qu'on, c'est pour ça qu'il a été comparé à Netflix, du coup, Stadia. C'est le côté simple. On n'a pas besoin d'insérer un périphérique dans un autre, dans un appareil pour lire. Là, on clique et ça s'affiche instantanément en fonction de notre débit. Donc moi, je suis très très fan. Après, tu nous diras ce que tu en penses, Gaëtan, mais je suis très très fan. Mais il y a des questions qui se posent aussi là-dessus. Donc tout est déporté. Bon, ça c'est génial. Du coup, avec mon Chromebook, avec mon smartphone, avec ma tablette, avec tous mes appareils, mon Chromecast, je peux jouer n'importe où, dans le train, dans l'avion, dans le bus, au boulot, pas trop parce qu'il faut que je travaille, mais je peux jouer un peu partout. Mais certains vont me dire, ouais, mais t'es gentil, les serveurs de Google, ils consomment énormément d'électricité. Tu veux jouer, mais tu pollues encore plus que si tu avais une console de jeu. Fais pas ça, Nicolas. Va t'acheter ta console, prends ta petite voiture, achète ta console dans un magasin de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là, Gaëtan ?
Alors, il y a deux façons d'avoir le sujet. Déjà, faut étudier d'où vient l'électricité de Google. Google s'est engagé il y a quelques années à passer à 100% en énergie verte, chose qui est le cas depuis un an et demi ou deux ans. Et même maintenant, quand ils montent des serveurs, il y en a un qui est en Finlande, où le serveur est refroidi par de l'eau qu'ils récupèrent sur un barrage. Et ils ont développé tout un système pour pouvoir rejeter de l'eau exactement à la même température qu'ils l'ont prise pour qu'il n'y ait pas d'impact écologique derrière. C'est bon, ça. Souvent, on parle des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, effectivement, c'est pas très, très propre comme énergie. Et en plus, ils prennent de l'eau pour refroidir tout ça. Et quand ils rebalancent l'eau, eh ben, elle est à 2, 3 degrés de plus que ce qu'ils l'ont prise. Et forcément, ça a un impact sur on va dire, l'environnement qui est autour. Toute la faune et la flore qui est autour n'est pas forcément adaptée à ces 2 ou 3 degrés de plus. Et ça va, on va dire, l'impact écologique est ressenti. Donc, même si effectivement il y a beaucoup de consommation d'électricité, c'est pas forcément l'électricité qui est nocive, à partir du moment où ils sont tous en énergie verte, qui développent eux-mêmes des solutions pour pouvoir limiter leur impact. Donc ouais, on va dire c'est pas si mauvais. D'un autre côté, quand on fait le comparatif avec la console, bah déjà ça va limiter le nombre d'achats de consoles. C'est-à-dire qu'un Chromecast, il n'y a pas grand-chose dedans. Utiliser votre ordinateur, ça évite d'en ouvrir, d'en acheter un nouveau. Et on pense jamais à tout ce qui est conception de matériaux, que ce soit votre carte mère, les cartes graphiques, etc. Tout ce qui est électronique, ça utilise des métaux rares et qui ne sont pas des ressources inépuisables. Et le jour où il n'y aura plus de ces métaux rares, ça va être un petit peu compliqué. Et les conditions dans lesquelles ces métaux rares sont récoltés sont souvent assez peu éthiques. Hein. C'est-à-dire on exploite des pays un peu...
Ouais, c'est pas forcément très en avance et du coup le coût de la main d'œuvre est pas cher dans ces pays-là, donc
Ouais, voilà, et même au-delà de la paix, c'est des conditions de travail. On envoie des gamins dans des mines pour qu'ils aillent piocher toute la journée pour nous ramener des métaux rares pour faire des ordinateurs et des pièces électroniques pour qu'on soit tout tranquille à dire ah, il est bien mon jeu. Donc de l'autre côté, ouais, c'est pas très écologique non plus.
J'ai amené cet argument-là à pas mal de monde et on m'a dit ouais mais ton serveur là, il a pas des cartes mères aussi, il a pas des composants et des matériaux rares.
Ah ben si, c'est le cas, mais moi j'aime bien comparer ça avec l'autobus. Alors je sais que la comparaison a pas été appréciée de tout le monde, mais un autobus ça consomme de l'essence exactement comme une voiture, sauf que bah dans une voiture on met 5 personnes, dans un autobus on en met 50. Donc, si on rapporte l'essence qui a été consommée par rapport au nombre de personnes qu'on a déplacées, bah ça fait moins de gâchis. Et bah, le serveur Google, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que oui, effectivement, il a besoin de cartes mères, il a besoin de cartes graphiques et tout. Par contre, ça va réduire le nombre d'ordinateurs qui sont achetés dans le commerce et qui finissent par s'entasser à la déchetterie. Ça va réduire le nombre de jeux à transporter. Parce que par exemple, quand on parle des jeux en boîte dans les magasins, quand ils sont commandés, il faut l'acheminer avec les camions, après il faut les stocker, etc. Voilà. Je passe sur ceux qui commandent des trucs sur Amazon ou AliExpress, mais par exemple, tout ce qui est produit chinois, ça vient en bateau. Enfin, le bateau, vu ce que ça rejette comme chose sur l'écologie, c'est pas ouf non plus. Donc je pense qu'on n'a pas assez de recul pour savoir si ça sera bien ou meilleur. J'ai pas de réponse immédiate. Par contre, certes, c'est pas parfait, mais ce qu'on avait avant n'était pas parfait non plus. Donc, il faut prendre le temps de réétudier et plutôt que de se poser la question écologique, se poser la question dont nous, on consomme le jeu. À partir du moment où, de toute façon, je consomme du jeu vidéo, j'ai forcément un impact écologique quelque part. Et à moi de décider, enfin, à chacun de décider comment il décide de le limiter ou pas.
D'accord, effectivement. Je suis ton raisonnement et je suis d'accord avec toi. On peut être maître de son destin finalement et choisir le moins pire, la solution la plus moins mauvaise. Ça va comme expression? La plus moins mauvaise, ouais, c'est bien, je vais le prendre, je vais le noter. Mais effectivement, j'aime ta comparaison avec l'autobus, c'est génial. Je la reprends, je la note et je vais la mettre dans un coin. J'aurai enfin un argument à donner, je ne l'avais pas. Et c'est une très bonne analogie. Donc du coup, tu me conseilles quand même de prendre Stadia finalement, parce que j'ai pas le plastique de la console, j'ai pas le transporteur qui vient m'amener la console dans mon magasin, j'ai pas moi qui vais avec ma voiture au magasin, je vais pas aller ensuite acheter un autre jeu dans un autre magasin ou sur Amazon. Donc finalement, en suivant ton raisonnement, ça un peu meilleur.
Oui, après je pense qu'il faudra attendre un peu de recul pour être sûr de savoir si c'est meilleur ou pas, du moins sur la partie écologique. La question essentiellement se pose aujourd'hui pour un Stadia, je pense que c'est la question de l'usage. C'est vraiment la façon de jouer. Beaucoup ont cru que ça s'adressait aux gamers, alors que Stadia ne s'adresse pas aux gamers endurcis qui jouent sur PC depuis des années, puisque ces gamers-là ont déjà une config, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour jouer, ils ont un catalogue Steam sur lequel ils ont dépensé souvent des milliers, des cents. Donc étant donné qu'ils ont tout, ils n'ont pas un très très grand intérêt à passer sur Stadia, et vaudrait mieux pour eux qu'ils passent sur un Shadow.
Ouais, puisqu'ils pourraient remettre leur catalogue Stadia dessus, quoi.
Ouais, complètement. Alors que si on vise, on va dire, moi j'aime bien appeler ça la cible des papas, quand on atteint la trentaine, la quarantaine, quand on a une vie de couple, des enfants, un travail, forcément on a moins le temps de jouer que ce qu'on jouait quand on était plus jeune, enfin toi comme moi je pense, et on a moins le courage de se dire ok, je vais jouer à un jeu, si je sais que quand je vais lancer mon jeu, bah je vais lancer Steam, il y a une mise à jour de Steam, après il y a une mise à jour de mon jeu, voilà. Et si on n'habite pas dans une grande ville et qu'on n'a pas un débit de ouf, le temps de faire les mises à jour et tout ça, si on veut jouer, bah c'est une horreur. Moi, il y a pas longtemps, j'ai voulu jouer à un jeu PS4. Quand je l'ai téléchargé, j'ai voulu le lancer. Il m'a dit que j'en avais pour 20 heures. C'est dommage. Moi, je voulais jouer tout de suite, quoi.
C'est ça, ouais.
Et j'ai pas. Alors, certes, j'ai pas la fibre, mais ouais. Stadia fonctionne sur ce même réseau. Donc, c'est plus, je pense, c'est des anciens gamers qui peuvent être reconquis par la facilité d'accès. C'est-à-dire que là, ils peuvent limite choisir un jeu en rentrant du boulot dans le bus. Ils ouvrent l'application Stadia. Ah tiens, il y a tel jeu qui vient d'arriver aujourd'hui sur Stadia. Ils appuient sur « Ajouter à la bibliothèque ». Et puis, dès qu'ils arrivent chez eux, ils ont juste à ouvrir l'onglet Stadia. Ils peuvent lancer le jeu direct. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment axé sur la simplicité et la rapidité d'accès plutôt que sur la puissance de l'outil en lui-même. Et pour le coup, l'interface est vraiment super intuitive.
Ouais, très bien. Ouais, moi, je suis peut-être totalement dans cette cible-là. Hein. Clairement, j'ai plein de consoles parce que je suis débile. Je sais que je vais pas y jouer parce que, comme tu l'as dit, il me faut 20 heures pour télécharger une mise à jour. Quand c'est la mise à jour de la console, puis après la mise à jour du jeu. Donc du coup, en fait, j'ai acheté les consoles parce que j'ai envie de me dire que je vais y jouer. Et je dépense pour rien parce que j'ai acheté pour rien finalement. Et j'y joue pas parce que c'est trop long. Et Stadia répond complètement à ça en fait. J'ai un jeu, je l'allume, ça marche, point. Je me pose pas de questions. Le petit m'appelle, il faut que j'aille voir ce qu'il a. J'éteins mon truc, je reviens 2 heures après, ça remarche instantanément. Et mais c'est ça, ouais, c'est bien. Encore. Et je te reprends ta phrase, la cible des papas, j'adore aussi. Merci Gaëtan pour toutes ces petites petites phrases que j'adore. Mais clairement c'est ça. Hein, moi, par exemple, je jouais plus sur mon smartphone que sur ma console, à cause de ça, en fait.
Mais c'est une des raisons du succès de la Switch aussi. C'est-à-dire que la Switch a toujours cette petite histoire de temps de téléchargement, d'installation et tout. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide. C'est moins sur les gros jeux, on va dire. On ne prend pas une Switch pour jouer à Assassin's Creed ou à Tomb Raider, mais pour jouer à Mario Kart ou à des tas de choses. Et l'avantage de la Switch avec le dock, c'est qu'on peut jouer sur l'écran. Zut, c'est l'heure d'aller se coucher, faut aller dans le lit, tout ça, hop, on peut la prendre et puis jouer dans le lit comme ça, on est à côté de la chambre des enfants. Si j'ai envie de jouer dans le bus, elle reste quand même facilement transportable, et dès que j'arrive à la maison, je le mets dans le dock pour avoir un peu plus de confort avec une vraie manette et un bon canapé. Mais ça répondait déjà un peu à cette cible du jeu plus facile d'accès, au sens où je prends, j'allume, voilà. Le jour où il y a une mise à jour sur Switch, la console prévient, elle dit voilà, il y a une mise à jour. Par contre, je peux lui dire non, j'ai pas envie de la faire et j'ai envie de jouer. Et on peut la zapper et la faire plus tard. Et ça, c'était déjà quelque chose qui avait été bien apprécié par la cible des papas.
D'accord. Non, mais je connaissais pas. J'ai la Switch, hein, mais je l'ai pas allumée depuis très longtemps. Mais effectivement, c'est l'univers qui va. En plus, ce qui est génial, je me coupe moi-même. T'as vu, j'arrive à couper mes propres phrases. c'est génial. Mais ce qui est génial, c'est que c'est même ce que je voulais dire du coup. Mais ce qui est génial, c'est que comme tu dis, moi j'étais gamer, enfin joueur, comme je te disais avant la préparation, pendant la préparation, j'étais joueur. J'étais un gros joueur de jeux vidéo. Alors, les Duke Nukem, les Call of Duty, les quoi, il y avait quoi, Counter-Strike et compagnie, j'ai joué des heures et des heures à ces jeux-là, et depuis que les consoles sont arrivées, que les PC, fallait les mettre à jour assez souvent, j'ai complètement abandonné, et donc du coup, je suis cette cible de personne qui va aller acheter ce type de console, et surtout, je suis la cible assez intéressante, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de moyens que je n'en avais il y a 20 ans, en fait. Bah oui, parce que maintenant, je travaille, avant, je travaillais pas, je vivais que de la drogue et des petits boulots, et maintenant, je paye des impôts, tout ça, et j'ai plus d'argent à dépenser, et je pense que c'est plutôt malin de se lancer sur ce marché-là, pour Google, en l'occurrence, mais pour toutes les autres plateformes, parce que moi, je vais être plus capable. Par exemple, j'ai acheté un jeu, là, c'est sorti, le premier jour où j'ai lancé Stadia, j'ai acheté déjà un jeu. Dès le premier jour, alors que j'en avais déjà des gratuits, mais j'ai même pas essayé les gratuits, j'ai acheté un jeu. Je vous expliquerai à la fin lequel, mais j'ai déjà acheté un jeu sans me poser la question du prix, parce que j'avais pas la compte de l'acheter.
Et c'est justement, je pense, ce qui justifie entre guillemets le tarif du catalogue Stadia, parce que le on va dire l'appareil en lui-même est beaucoup moins cher qu'une console. Aujourd'hui, on prend le prix de lancement d'une PS4 ou le prix de lancement d'une Xbox One, enfin vraiment à l'époque où ils sont sortis, globalement, on part pour une console nouvelle génération sur un demi SMIC habituellement quand elle sort. Là, ça coûte, si on prenait le pack fondateur, 129€. Et en fait, on n'en a même pas vraiment besoin à long terme.
Aujourd'hui, on en a besoin pour la première version. Par contre, au mois de mars, avril de l'année prochaine, on n'aura plus besoin d'acheter ce pack. Hein. On pourra
Au mois de mars, il suffira juste d'ouvrir un onglet dans un navigateur et on pourra jouer. Ce qui veut dire que le coût, il sera très, très minime. Il suffira d'avoir, en fait, on pourra réutiliser du matériel qu'on a déjà. Par contre, au niveau du prix des jeux, effectivement, c'est quelque chose qui a été annoncé assez tardivement par Stadia. Le catalogue, on le connaissait et on attendait tous de savoir les prix. Et c'est des jeux qui ont quand même quelques années, pour la plupart, et qui sont vendus au prix où ils étaient quand ils sont sortis. Souvent, on voit la critique pour le Assassin's Creed qui est vendu au prix fort, alors qu'aujourd'hui, on peut le trouver pour quasiment rien, quoi. Enfin, d'occasion, il vaut beaucoup moins que ce qu'ils le vendent.
Moi, j'ai pas conscience du prix des jeux. Je me suis jamais vraiment posé la question, donc je m'appuie complètement sur toi pour ça. Ça me semblait pas très cher.
Un jeu à 70 balles aujourd'hui, c'est le prix qui coûte à la sortie, mais il va très vite baisser. Aujourd'hui, j'ai pas le prix en tête du Assassin's Creed Odyssey, mais j'ai de très forts doutes sur le fait qu'il soit encore à 70 balles, ou du moins personne ne va le payer ce prix-là ou une cible minime. Mais étant donné...
Je te coupe, mais en l'occurrence, il n'est pas à ce prix-là hein, sur Stadia. Il est annoncé 69,99€ en prix barré et à 35€ à l'achat.
Bah parce que pour l'instant, c'est une réduction qui est destinée au Stadia Pro. Donc étant donné que pour l'instant, il y a qu'eux qui ont accès. Mais on va dire qu'au mois de mars, par exemple, quand ça sera fait, et ça sera accessible à tout le monde, si j'ai pas un abonnement Stadia Pro et que j'ai juste envie de jouer à un jeu sans m'embêter vite, on va dire tiens, je suis au mois d'avril, je me dis je jouerais bien Assassin's Creed Odyssey, j'ai quand même des moyens parce que je travaille tout ça et tout, et j'ai pas envie de m'embêter à aller l'acheter, à le trouver pas cher ou à l'installer, voilà. Et ben du coup, j'ouvre un onglet Stadia, je clique, je paye mes 70€ et le jeu il se lance tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui vise clairement des adultes qui ont un travail et qui ont un pouvoir d'achat assez développé et qui vise pas du tout un joueur adolescent qui galère avec son argent de poche ou du casu au sens où on l'entend. On imagine souvent que le casu, c'est plutôt un jeune qui joue un petit peu à des petits trucs. Non, là, c'est toujours la cible du papa et ils savent que le papa, eh ben, il va claquer plus d'argent parce qu'il achète moins de jeux. Et donc, ça le dérange moins de mettre 70 balles dans un jeu en disant, bah, c'est pas grave, je prends que celui-là.
Évidemment. Je sais pas, tu me dis, mais Final Fantasy XV, il vient de sortir, je crois, un truc comme ça, non? C'est pas vieux, sûr.
Il a déjà un petit moment, quand même. C'est pas okay. Tout neuf, hein.
Ok. Non, mais c'est parce qu'ils viennent de l'annoncer sur Stadia, donc c'est pour ça que.
Je pense que le plus récent dans les gros, ça doit être le Red Dead Redemption, puisqu'il vient de sortir sur PC. Après, tous les jeux sont pas forcément très chers sur Stadia. Thumper, il est sorti à 20€. Si je me trompe pas, ils ont un exclu qui doit s'appeler Kain qui doit être à 20€ aussi. Ouais, il y a Guild qui est à 30. Enfin, il y a quand même des prix un peu plus bas que les 70 balles. C'est juste que c'est des jeux qui aujourd'hui qu'on trouve facilement en dessous de ce prix-là. C'est pour ça que ça va un petit peu gueuler et en neuf. Voilà. C'est pour ça que ça va un petit peu gueuler, mais c'est parce que je pense qu'ils ont très mal communiqué sur leur cible.
C'est ça leur problème. Alors du coup, si on résume, on peut se dire que Stadia, c'est plus cher, moins cher qu'une console de jeu. On se positionne comment et finalement, le plan de financement de Google, il est déjà défini ou crois-tu qu'il va changer?
Alors je pense que ça va évoluer avec le temps. Globalement, aujourd'hui, si on compare par rapport à une console, on va dire qu'on est moins cher parce que on n'a pas besoin d'acheter l'appareil, pas besoin d'acheter le terminal. Au pire, on va acheter un Chromecast Ultra avec la manette. Enfin, même quand elle sera en dehors des packs fondateurs, ils vont vendre ça à 129€. On est largement en dessous du demi-smic d'une console. On attend le mois d'avril pour se dire je prends juste un jeu et rien d'autre, bah il va peut-être payer 70€, mais concrètement, il aura payé juste le jeu, il aura pas payé de console du tout. Et surtout, si on a un compte pro, ben, on a quand même des tarifs vachement avantageux. Donc, le Assassin's Creed, est à 70€, il est à 35.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Final Fantasy, au lieu d'être à 40, il est à 30. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et surtout, si on a l'abonnement, on a les deux jeux gratuits par mois. La même chose que propose Microsoft avec un Xbox Live ou Sony avec un PSN Plus. Donc même en payant mes 10 balles par mois, je gagne deux jeux par mois, alors qu'au départ, ils avaient annoncé un. Ils sont finalement restés sur deux. Donc pour 10€ par mois, j'ai deux jeux sans avoir à m'embêter à faire des installs, tout ça et tout. Je pense que même si on n'est pas moins cher, on sera forcément pas plus cher qu'une console.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est bien voir les deux axes que prennent Google. T'as la version, donc, comme tu disais, Pro, qui est facturée 9,99€ si on en sort le pack fondateur, le pack première édition, où tu ne seras pas obligé dans l'avenir de le prendre. Donc, en gros, t'as ta console tu as ton accès, on va appeler ça plutôt accès à ta console de jeu à 9,99€ par mois, mais il te file des jeux gratuitement. Donc typiquement, là, les deux jeux qui ont été offerts, c'était Destiny 2 et Samurai Shodown, je crois. Et en décembre, ils en offrent deux supplémentaires qui est Farming Simulator 19, je crois, et Tomb Raider, une édition, je ne sais plus laquelle. Donc, ces quatre jeux-là, en gros, quand tu donnes 9,99€, quand tu as déjà quatre jeux, tu te dis, c'est pas cher du tout, hein, pour moi. Au-delà de ça, il te parle de la 4K, donc ça a fait un peu de polémique aussi au niveau de l'affichage. Il te parle d'une meilleure, je ne sais pas quoi exactement, mais c'est un peu meilleur pour le reste. Et puis, de l'autre côté, tu as l'offre complètement gratuite, où tu n'as même pas de console à acheter, même pas d'abonnement pour accéder à ça, et tu ne fais que, via ton compte Google, payer un jeu, point. Comme tu le ferais sur ton téléphone, finalement, où tu achètes ton jeu si tu veux l'acheter et pas avoir un free-to-play, t'achètes ton jeu directement. Donc, c'est ces deux façons de faire qu'ils ont, que les consoles de jeux, je parle pour les nouveaux arrivants dans le monde de la console. C'est sûr que si t'as déjà ta console depuis 2-3 ans, tu vas pas en racheter une nouvelle tout de suite. Tu vas attendre la durée moyenne, je crois, c'est 5-6 ans pour une console de jeu. Tu me diras, tu sais peut-être plus que moi là-dessus.
C'était 5 ans avant, mais si on prend par exemple la PS3 et la 360, elles ont fait un cycle plus de 8 ou 9 ans que de 5, et c'est les usages qui ont changé. La Xbox One par exemple avait très mal démarré pour tout un tas de raisons, et par contre c'est le principal concurrent à Stadia, on va dire, c'est plutôt eux avec leur offre. Actuellement moi j'ai un Xbox Game Pass, je paye 10€ par mois et j'ai accès à un catalogue de fou en illimité, mais par contre où je dois les installer. Donc j'ai toujours un peu le problème de l'installer et tout. Par contre, pour 10€ par mois, j'ai un catalogue de fou. Il y a des sorties, des jeux dès le jour de la sortie qui sont disponibles là-dessus. Donc est-ce que à long terme, Google va essayer de se rapprocher de ce modèle ? Enfin moi, c'est ce que je pense. Après, faut voir. Le problème de coupler les deux modèles, c'est que déjà actuellement, il faut des gros serveurs pour pouvoir faire tourner les jeux qui sont proposés dans Stadia. Donc si on veut proposer un catalogue illimité, en plus de ce qu'ils font tourner, je pense qu'il faut des serveurs encore plus costauds. Mon avis, c'est que à long terme, ils vont arriver à un modèle proche du Netflix, mais que aujourd'hui, c'est trop compliqué et qu'ils vont y aller étape par étape avec un déploiement progressif.
C'est exactement ce que je pense, hein. C'est ce qu'on disait au début. D'abord, ils avaient annoncé un seul jeu gratuit par mois. Bon, t'as une hypothèse sur le Samurai Shodown, mais ils en ont amené deux dès le départ. Et puis en décembre, on s'attendait à un nouveau jeu supplémentaire, et ils n'en donnent pas un, mais deux. Donc là, on en a déjà quatre. Il faut savoir que Stadia a pour l'instant un catalogue qui est, pour certains, dit pauvre. Comme tu l'as bien dit dans un de tes articles, ça reste une des consoles qui a le plus de jeux au lancement. Donc il y a 22 jeux, je crois, dans mes souvenirs.
Ouais.
Ces 22 jeux-là, au rythme où on va, s'ils commencent à en offrir deux par mois, on va vite l'atteindre. Je vais dire qu'en 10 mois, c'est réglé, mais pourquoi pas le mois prochain en offrir 3. J'ai plus, comme tu le dis, l'impression qu'ils sont en train de tester. En fait, en gros, ce qu'ils auraient dû dire, c'est que les premiers sont des bêta-testeurs de Stadia.
Je pense c'est complètement une grosse alpha. Ça se voit à la façon dont ils ont lancé le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si moi, je découvre Stadia et que je veux m'y mettre tout de suite, je ne peux pas. Parce qu'il fallait passer par la réservation d'un pack fondateur qu'ils avaient limité en nombre, etc. Et je pense que c'est pour pouvoir pas prendre de risques avec les serveurs. Même aujourd'hui, ils les allument au fur et à mesure qu'ils les envoient, qu'ils envoient les codes. C'est qu'ils sont...
Ouais, c'est ça.
Enfin, à mon avis, ils ont préféré y aller petit à petit en faisant grossir le système tout en conservant la stabilité, plutôt que de se lancer à fond les ballons et de se vautrer. Ouais, je pense qu'il va falloir le temps d'amortir les. Okay. C'est ce qu'avait fait Shadow d'ailleurs. Shadow avait limité au départ le nombre d'inscrits pour pouvoir assurer la qualité des gens qui payent un abonnement chez eux. Et donc il y avait une liste d'attente et fallait attendre qu'ils aient amorti financièrement les serveurs pour en acheter des autres et ainsi se développer. Et de toute façon, c'est le genre de technologie. Il faut dire ce qu'est, c'est quand même très neuf. Google, c'est un des premiers à le faire avec Shadow. Il faut leur laisser le temps de peaufiner les choses. Et déjà, même si aujourd'hui c'est pas parfait, ça marche. Et c'était pas même moi qui pourtant y croyais, quand j'ai lancé, j'ai réussi à être bluffé, quoi.
Ah, je suis content. Alors pour Google, ça doit pas être un problème de moyens pécuniaires financiers, hein, de mettre des serveurs, mais je pense plus il s'attarde à la stabilité du matériel, enfin tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et on l'a vu, c'est toi qui me l'as fait remarquer d'ailleurs, les problèmes de stabilité ou les problèmes de mise à jour pouvaient venir non pas de Stadia, mais du studio de développement même du jeu, en fait, avec, je ne sais plus de quel tu m'as parlé tout à l'heure, où derrière, Google donc a plusieurs problèmes à régler. D'un côté, sa propre stabilité, mais aussi de l'autre côté, le développeur qui va peut-être pas dans le bon sens au bon moment ou qui fait des erreurs.
Alors ça, c'est quelque chose qui a été soulevé par un journaliste de chez Gamekult, c'est Nodus qui a publié un tweet où il montrait un visuel de NBA 2K avec une barre de chargement, ce qui était loin d'être la promesse de Stadia, qui disait « bah ouais, mais grâce à nos serveurs et tout, vous n'aurez plus ce problème-là ». Donc Google a répondu dans le flux, faut remonter tout le flux et lire, mais Google a répondu qu'effectivement, il y avait eu un problème du côté du développeur et qu'ils avaient chargé la version console au lieu de charger une version Stadia, grosso modo, et qu'ils allaient travailler avec eux conjointement pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc en lisant ça sur un tweet, je me suis dit « tiens, c'est intéressant, faudrait creuser là-dessus ». Et en faisant des tests, moi j'ai uniquement fait des tests sur Samurai Shodown et sur Destiny 2. Et ben on voit la différence. C'est-à-dire que Destiny 2, qui était annoncé depuis longtemps comme étant le jeu de lancement, il est complètement optimisé pour Stadia. Moi j'ai un débit internet qui est pas ouf, je suis à 12 mégas. Ils annoncent qu'il faut au moins 10. À 12 mégas, je peux jouer tranquillement à Destiny. Effectivement, il y a des micro latences, mais elles sont pas gênantes pour jouer. Vraiment graphiquement, ça envoie la patate. Je peux jouer tranquille, même quand il y a des ennemis qui me tirent dessus d'un peu partout, ça bouge quasiment pas, enfin pas de lag, vraiment aucun problème. Alors que Samurai Shodown, qui n'était pas annoncé comme étant un des jeux de lancement, enfin du moins pas un des jeux offerts gratuitement, déjà c'est un jeu de baston, donc c'est beaucoup plus exigeant en termes de réactivité, mais surtout il est bien moins bien optimisé. C'est-à-dire que quand je joue, effectivement, là, pour le coup, il y a des gros ralentissements de temps en temps en plein combat qui sont vraiment gênants, qui font que si j'ai pas une connexion qui est hyper stable, je pourrais pas jouer à Samurai Shodown. Donc, je pense que au-delà du côté Stadia pur, il y a aussi toute une façon de concevoir le jeu et de, on va dire, de le programmer et de l'optimiser, qui est un travail à faire du côté des développeurs et qui fera qu'à long terme, les développeurs vont sans doute faire des versions console et des versions Stadia qui vont pas du tout fonctionner de la même façon.
Clairement, hein, on est, comme tu l'as dit, sur quelque chose qui est naissant. Google est le premier à se lancer dedans. Si on sort un petit peu Shadow, j'avais fait des articles sur My Chromebook. Je parlais, il y a déjà des systèmes qui permettaient de le faire, parce que sur Chromebook, j'avais téléchargé. Alors j'ai plus le nom en tête, mais il y avait des applications où tu prenais un abonnement et tu pouvais jouer à des jeux directement depuis ton Chromebook, façon Xbox Cloud, un truc comme ça. Ça existait déjà, mais pas à une échelle mondiale comme l'attaque Google. Donc on voit l'évolution, on voit que ça part, mais on voit aussi qu'aujourd'hui on est sur un pré-lancement. Enfin, ils l'ont pas appelé comme ça, mais pour moi c'est ça, hein, c'est une pré-alpha ou une pré-bêta. Et on le voit parce qu'il manque des fonctionnalités, il manque pas mal de fonctionnalités. Donc toi, tu l'as testé, est-ce que tu as vu des fonctionnalités qui te manquaient ou pas?
Alors moi j'ai testé déjà le jeu direct, vraiment j'ai installé l'application. Quand on lance l'application, on nous demande juste de rentrer le code, en gros sur quel compte Gmail on veut le lier, un petit code d'activation, le Stadia Pro, comment on veut payer pour avoir le compte Pro, et dès que c'est fini, on choisit un avatar, un nom, et c'est réglé. Il faut littéralement 3 minutes, hein, vraiment. Une fois que c'est fait, on accède au catalogue. Moi, j'ai été voir directement les jeux gratuits, j'ai fait « Ok, ajouter au catalogue », et quand j'ai fait ça, j'avais déjà ouvert mon onglet Stadia sur l'ordinateur qui était devant moi. Au moment où j'ai sélectionné le jeu, l'onglet s'est mis tout seul sur le jeu, j'ai plus qu'à appuyer sur lecture et c'était parti. Donc ouais, ça démarre, il y a un tout petit écran qui sert d'écran de chargement pour déguiser, qui habille un peu, mais le jeu complet se lance en moins de 10 secondes, quoi. Alors que j'ai pas un débit fou. Et j'ai testé le changement d'écran à la volée. C'est-à-dire que j'ai mon Chromebook d'un côté et mon PC de l'autre. J'ai commencé à jouer sur mon Chromebook, j'ai mis la pause, j'ai ouvert l'onglet sur mon PC, j'ai appuyé sur play et j'ai repris exactement où j'en étais. Et du coup, je peux passer vraiment d'un périphérique à l'autre sans problème. Donc, si je suis en train de jouer sur un ordinateur et que un autre membre de la famille en a besoin, je mets en pause, il va sur autre chose, sur ce qu'il veut, sur son onglet. Moi, je prends mon Chromebook, je me remets dans le salon ou sur la table d'à côté, j'ouvre mon onglet et je reprends la partie exactement où j'en étais, et là-dessus, vraiment,
c'est super. Par contre, t'es mort quand tu joues à Destiny 2. Hein. Enfin, tu recommences, mais vu que tu t'es fait assassiner par tout le monde autour de toi, tu recommences, mais t'es mort.
Ouais, moi j'ai testé avec Samurai Shodown au départ, Destiny, bon, vu que c'est un jeu en ligne, c'est un peu différent. Mais sur la fonctionnalité en elle-même, ça marche.
Alors moi, il y a quelques fonctionnalités qui manquent un petit peu, enfin qui ont été annoncées et je m'attendais à avoir tout de suite en fait. Typiquement, alors ce que je vous dis aujourd'hui n'est plus vrai là pour cet exemple-là. En fait, moi, je m'attendais à, par exemple, t'inviter dès le 19. En fait, moi, j'ai reçu mon code d'activation, je crois le 19 dans la nuit. Et donc, du coup, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai reçu mon code, j'ai tout de suite essayé et je me suis dit tiens, je vais tout de suite inviter Gaëtan qu'on joue ensemble parce que je sais que tu ne dors pas la nuit, t'es un peu un vampire. Donc, donc du coup, je me suis dit tiens, je vais l'inviter direct. Comme ça, on commence à se faire un Destiny les deux ou un Samurai et puis il m'explose. Et ben là, en fait, ils appellent ça le Buddy Pass, je crois. Il n'était pas disponible. Donc ça a été enfin mis en place le 26. C'est là que j'ai pu t'inviter directement. Et ça, voilà, moi j'étais un peu déçu de pas l'avoir immédiatement parce que j'étais tout seul, j'avais pas d'amis sur Stadia. À part toi qui pouvait pas y jouer parce que je pouvais pas te donner le code. Et maintenant ça a bien changé, j'ai plein d'amis maintenant. Mais dans les premiers jours, les deux premiers jours en fait, j'avais personne avec qui jouer. Donc je jouais avec des personnes lambda. Bon tant mieux, j'ai fait connaissance d'autres personnes mais j'aurais préféré jouer avec des potes. Et ça m'a manqué, c'est corrigé, c'est déjà corrigé. C'est pas corrigé, c'est activé en fait. L'autre chose que je trouve dommage, alors moi je suis un blogueur, voilà, j'aime bien partager ce que je fais. Et typiquement, sur la manette, alors tu vois pas encore Gaëtan, t'as pas encore reçu ta manette, mais t'as un bouton pour faire un screenshot de ton image, de ton interface. Tu peux le faire avec le PC, mais je sais pas où est la touche. J'ai encore pas trouvé. Si tu la trouves, tu me le dis. Tu peux faire un screenshot de ton écran. C'est génial. L'image est super nette, elle est très bien. Par contre, elle est stockée sur le téléphone. Et tu peux pas la récupérer. Je comprends pas trop l'intérêt du coup, donc je suis obligé de faire un screenshot de mon screenshot pour pouvoir le récupérer. Et tu peux faire une capture vidéo de 30 secondes de ton jeu. Alors c'est génial, hein, c'est vraiment parfait. Enfin pour faire une animation dans un post de blog ou pour les youtubeurs ou je sais pas quoi, ça peut être très très intéressant d'avoir ça. Mais aujourd'hui tu peux pas les récupérer. Bon, ça va arriver incessamment sous peu, mais tu peux pas. Ça t'intéresse toi de faire des screens? Enfin dans ton cas peut-être, mais peut-être que ça n'intéresse que nous deux.
Tu sais, j'ai l'option sur ouais. Xbox et PlayStation, bah même la Switch. Je le fais une fois de temps en temps parce que ça arrive des fois que je joue à un jeu, il y a un dialogue un peu rigolo ou il y a une image un peu sympa, ouais. etc. Mais pour moi, c'est pas une fonction essentielle, mais c'est que c'est une plus-value vachement sympa. Après, je me dis que charger une vidéo de 30 secondes, ça va encore remouffer de la puissance sur leur serveur. Si tout le monde le fait en même temps, ouais. Il va falloir le temps de le déployer, etc. Je pense qu'ils se sont fait avoir et qu'ils pensaient pas avoir autant de personnes qui adhèrent au départ et qu'ils ont restreint le nombre de fonctions pour assurer la qualité de...
Moi, typiquement, en parlant de fonctions qu'ils ont restreintes, il y en a une qui manque. Alors, elle me manque pas beaucoup parce que je l'ai déjà partout et puis il me saoule de partout. C'est l'assistant vocal. En fait, aujourd'hui, il n'est pas fonctionnel. Tu sais, normalement, quand tu es coincé, tu pouvais lui dire, t'appuies sur le bouton où j'imagine que tu lui dis la phrase magique qui déclenche tous les assistants vocaux du monde. Et il donnait une indication, genre, monte sur la corde en haut à droite. Ils avaient fait une démonstration sur Assassin's Creed, je crois. Et bah, celle-là n'est pas fonctionnelle. Aujourd'hui, tu le dis, hein. Non, cette fonction n'est encore pas implémentée. Merci de patienter. Donc, c'est dommage. C'est un truc qu'ils avaient annoncé et qui est mis en avant, hein, parce que sur la manette, t'as le bouton assistant personnel, hein, directement. Et quand tu cliques dessus, il te dit, bon, bah, non, pas tout de suite. Attends un petit peu. Bon. Ça va peut-être gêner personne à part moi, mais c'est dommage qu'il n'ait pas directement mise. Moi, ça m'aurait fait plaisir, mais comme tu dis, c'est peut-être une surcharge des serveurs supplémentaires qui est peut-être pas aujourd'hui très intéressante à mettre en place.
Bah, c'est surtout qu'ils ont été très mauvais en communication, en fait. Déjà, ils ont expliqué très tardivement ce qu'était Stadia. La vidéo qui explique est arrivée tard. Et surtout, ils n'ont pas donné les détails. Ils n'ont pas expliqué que ça sera un déploiement progressif. Même les derniers jours avant le lancement de Stadia, moi, je m'attendais à avoir plein d'annonces. Je surveillais le Twitter, le Facebook, tout ça. Et non, ils n'ont presque rien donné. Et ouais. Vraiment, en termes de com, ils n'ont pas été très, très efficaces. Et je pense que c'est ça qui leur fait du mal aujourd'hui. C'est que le produit n'a pas été compris parce qu'il a mal été expliqué. Et qu'il faut qu'ils essuient les plâtres de ce truc-là.
C'est ça. C'est quand même malheureux qu'une société qui vit essentiellement de la publicité, de la communication, ne sache pas communiquer. C'est...
Si j'étais mauvaise langue, je te dirais bien que le chef de projet de Stadia, c'était le chef de projet de la Xbox One et de la PS3, et que les deux fois, ça a été coulé. Tu vois. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas choisi le bon cheval.
Ouais. Tu crois qu'il est seul aux commandes? Ah, peut-être pas, non. J'espère.
Non, mais dans tous les cas, en termes de com, déjà, prendre ce mec-là, c'était pas une bonne idée. Tu vois, tu passes pour un con direct. Ouais.
Mais il était disponible, il s'est fait têche partout.
Ah bah oui.
Donc, c'était peut-être le meilleur choix disponible à ce moment-là. Ils avaient le choix entre moi, directeur de com pour eux, ou lui. Bon, bah, je comprends qu'il ne m'ait pas pris moi.
Non, mais il y a plein d'éléments un peu étranges où on voit qu'ils ont été débauchés des gens un peu tardivement dans le projet.
Ouais.
Et on se dit, tiens, ils l'ont annoncé, ils ont lancé les choses, mais on ne sait pas trop comment ça s'est fait en arrière.
Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, Google est jamais...
Je pense que même chez eux, c'est une grosse alpha. Hein.
Ouais, clairement. Clairement. On continue un petit peu sur le catalogue de jeux. Tu me parlais justement des jeux. Le catalogue, il a été décrié par tout le monde. Il dit, oh, mais ils ont pas de jeux, c'est nul. Enfin, je te parle des journalistes lambda. Je vais pas citer BFM. Ah merde, je l'ai fait. Des trucs, enfin, il y a sûrement de très bons journalistes, mais qui n'ont pas lu la dépêche entièrement, qui se sont basés sur le catalogue de jeux qui était très faible. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Est-ce qu'ils ont raison de nous dire que le catalogue est trop faible? Comme on l'a dit au début, les consoles, quand elles démarrent, elles n'ont jamais un catalogue de 50 000 jeux, quoi. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux de la part de Google, ou est-ce qu'ils ont fait en sorte d'en avoir plus? J'ai un de mes amis qui me dit, ouais, mais ils n'ont qu'un jeu exclusif, ça ne marchera pas. Regarde Nintendo avec Mario, bah, ils cartonnent à chaque fois. Ils sortent une console avec un jeu, ça marche, quoi. Il n'a pas totalement tort. Mais qu'est-ce que je peux lui dire à lui qui m'énerve de dire ça tout le temps?
Alors la critique, elle a un peu évolué. Au tout départ, c'était critiqué pour le nombre de jeux. Sauf qu'une des dernières annonces qui a été faite avant la sortie, c'est de rajouter des jeux. Ils ont donc fini à 22 jeux,
ouais.
Ce qui est loin d'être vilain par rapport à d'autres consoles qui sortent. La critique, elle a évolué en « Ah oui, mais c'est pas des exclus, ou c'est des jeux qui ont un an, ou des jeux qui ont deux ans, etc. » Bon alors, certes, c'est le cas, mais en fait, quand on avait une sortie de console en Europe, des fois, on se tapait sur le line-up de sortie des jeux qui avaient un an au Japon. Donc le problème était un peu le même, c'est juste qu'on le voyait moins. D'autres critiques qu'on a vues, c'est de dire qu'il y avait peu d'exclus, et effectivement, il y a peu d'exclus. Ce qu'il faut se dire, c'est que je pense qu'ils sont surtout allés bosser avec des grosses entités. Ils sont allés bosser avec Ubi, ils sont allés bosser avec Rockstar, ils sont allés bosser avec Yeah.
Enfin, ouais.
Des gros qui eux avaient les moyens de prendre ce risque pour avoir une exclue. Je suis pas sûr que les gros vont s'embêter à développer une licence spécifique pour Stadia, sachant que étant donné que même eux ils comprennent bien que c'est une grosse alpha, ça ferait beaucoup d'argent de lancer une nouvelle licence sur un truc dont on n'est pas sûr que ça marche. Donc c'est les exclus qu'il y a, ouais. C'est essentiellement des titres de studios indépendants. Il y a Guilt qui est fait par un petit studio espagnol qui a l'air vraiment très cool, qui est vendu 30 balles, enfin voilà, c'est qui potentiel. Kine dont je parlais tout à l'heure, c'est plus proche d'un petit ils le vendent comme un jeu de plateforme,
ça, ouais.
Plus un petit jeu de puzzle.
Là, on touche un peu tous les publics en fait.
Donc en plus ça s'adresse encore à une autre cible que celle des FPS et des jeux de baston. Et effectivement, pour l'instant, l'offre est pas très exclusive. Par contre, elle est diversifiée, chose qui est très mal mise en avant. Si on prend la line-up de sortie des autres consoles, parfois, il y avait sur 10 jeux, il y en avait 8 de sport, quoi. Là, on a... Ah ouais, complètement. Bah, Destiny, c'est quand même du gros FPS. Assassin's Creed, c'est du gros monde ouvert avec quand même du scénario derrière. Final Fantasy, on a du RPG. Football Manager, Farming Simulator, c'est quand même des chose très spécifique. On a Grid en jeu de bagnole, il y a Just Dance pour ce qui est un peu familial, Mortal Kombat et Samurai Showdown pour avoir du jeu de baston, en sport on a un peu de NBA 2K. Enfin, moi je trouve que l'offre, elle est diversifiée. C'est pas pour un lancement, il y a quand même bien pire.
Donc clairement, moi la seule chose où j'étais un tout petit peu déçu sur le catalogue de jeux, alors c'est pas tous les jeux, moi Destiny je joue, je suis malheureusement trop dessus, merci Google, ma productivité a chuté d'à peu près 80% à cause de vous, mais j'aurais aimé, parce qu'il l'avait annoncé, c'est le petit jeu justement exclusif Get Unpacked, tu sais, les déménageurs que tu joues un peu à 4, un peu comme le jeu Cooking, je sais pas comment ça s'appelle ce jeu. Overcooked, ouais. C'est un peu dans le même esprit, j'ai l'impression, et j'aurais eu aimé pouvoir jouer à ça tout de suite avec mes potes. Bon, ceci dit, j'avais pas de potes qui jouaient sur Stadia, mais j'aurais bien aimé l'avoir tout de suite, en fait, cette exclusivité. Bon, je l'ai pas eu. Alors qu'on a vu et revu des vidéos qui expliquaient, qui démontraient le jeu, et au final, on l'a pas. Bon,
donc, ce qui risque de se passer, c'est que peut-être que beaucoup de développeurs attendent de voir si Stadia, déjà, ça marche ou pas au niveau du public, pour voir si ça vaut le coup, parce que forcément, s'il n'y a pas de public, c'est pas la peine de mettre, de dépenser du temps et de l'énergie et surtout de l'argent à faire un jeu qui se vendra pas. S'ils voient que Stadia commence à avoir un petit succès, ils vont pouvoir commencer à se caler dessus ou à le faire une fois leur jeu sorti. C'est pour ça que les jeux qu'on a, ils ont déjà un an ou deux, c'est des jeux qui ont déjà été amortis, où ils ont déjà le code source et donc ils ont juste à réadapter une version Stadia. Ça leur a coûté moins cher que de développer une nouvelle identité. Si ça fonctionne bien, déjà, on peut être sûr que les gros studios, ils vont continuer. Ils vont se dire, bah tiens, c'est un endroit de plus où le mettre. Bah. Et ensuite, ils ont des discussions avec des petits. Là on parle que du catalogue qui est sorti, mais il y a d'autres jeux qui avaient été annoncés, qui ne sont pas encore sortis. Moi, j'attends Windjammer 2 comme étant le nouveau jeu qui va me faire perdre ma productivité à plus de 90%. et Windjammer 2, c'est pas un gros studio, c'est chez Dotemu, c'est des petits Français, etc. Et on peut se dire qu'une fois que les studios seront conquis, ils vont peut-être concevoir Stadia comme étant une console à part entière et y porter leur jeu.
Alors, quand tu parles
encore une fois, c'est quelque chose qui est trop neuf.
Ouais, quand tu parles qui doivent être conquis, c'est-à-dire que les gens jouent à leur jeu. Par exemple, Destiny, les joueurs jouent. On l'a vu vendredi dernier, beaucoup de monde avait reçu ses codes Stadia. Les serveurs Destiny, ils tombent. Impossible d'y jouer pendant 5 heures parce que un afflux de joueurs importants sont arrivés sur Destiny et malheureusement, Destiny avait peut-être pas prévu un tel engouement aussi vite. Mais qu'est-ce que ça leur rapporte à eux ? Est-ce qu'ils estiment que c'est un succès d'avoir autant de monde sur leur jeu, ou est-ce qu'ils se disent ouais, enfin il y a trop de monde, et enfin je sais pas quel est leur business model dans ce cas-là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien à ton avis?
Alors encore une fois, on manque de recul, mais en tout cas Destiny avait prévu son retour comme étant une deuxième vie grâce à Stadia. Il y a pas longtemps, ils ont ressorti c'est pour Halloween je crois, ils avaient sorti des petits patchs ou des petits add-ons qui permettait de redécouvrir un peu le jeu avec des nouveautés. Et là, pour le coup, Stadia, c'est peut-être l'occasion de donner un second souffle à Destiny, qui n'avait pas forcément été compris dès le départ par tout le monde quand il est sorti. Enfin, du moins le premier.
Ouais.
Et c'est l'occasion de revenir en étant le jeu de lancement d'une nouvelle console. Donc forcément, ça leur fait un peu de visibilité, voilà, c'est l'histoire d'amortir un peu plus sur leur jeu. Et surtout de voir s'il y a un potentiel de joueurs pour Destiny, puisque vu qu'ils vivent avec des season pack et des DLC à racheter, si la sauce reprend grâce à Stadia, bah eux, ça leur fait de l'argent qui rentre, tout simplement.
Mais là tu vois, par exemple, tu me parles, c'est des season pack, ils sont inclus dans Stadia. Donc moi, je les ai pas payés. Qui les paye? C'est Google ou c'est Destiny qui a dit non, on vous les offre pour la première version et peut-être que les...
Là, je pense que c'est une négociation qui a eu lieu entre eux pour que ça fasse une plus-value et que ça attire aussi des joueurs. Par contre, est-ce que à long terme, tous les prochains DLC vont être inclus dans Stadia? J'en suis pas sûr.
C'est le cas. Hein. En l'occurrence, t'as raison, puisque c'est quoi Red Dead Redemption? T'as la version de jeu qui est à 59€, mais si tu veux des packs supplémentaires, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais si tu veux des extensions, tu les payes. Enfin, pour l'instant.
Parce que déjà sur le catalogue Stadia pour Red Dead Redemption, il y a l'édition spéciale à 75€ et l'édition ultime à 90€. Ouais. Donc ils font déjà. Donc je pense que là le coup de Destiny, c'est que c'était vraiment leur jeu de lancement, donc ils ont voulu faire une belle offre pour optimiser leurs chances. Mais à long terme, si Destiny ressort un DLC, il y a de fortes chances qu'il soit payant. Et du coup, s'ils ont une base de joueurs sur Stadia, bah ça leur fait une base d'acheteurs potentiels. Si on part sur d'autres éditeurs, Ubisoft, ils ont sorti Assassin's Creed. S'ils voient que celui-là marche bien sur Stadia, bah le prochain, il sortira sur Xbox, PS4 et Stadia.
Et le fait que ça soit pas des exclusivités, tu disais, les gens, la critique a changé parce que Stadia n'avait pas d'exclusivité. Mais quel est l'intérêt d'avoir une exclusivité en tant que développeur? Moi, je développe un jeu, j'ai pas envie qu'il fonctionne que sur une seule plateforme parce que potentiellement j'ai plus de clients si je fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, j'arrive pas non plus à concevoir cette critique. Moi, développeur, clairement, je veux être partout. Mais visiblement, les joueurs.
Alors, parfois, ça se négocie une exclusivité. C'est pour ça que maintenant, il y a pas mal de choses, des exclusivités temporaires. Ça veut dire, on vous dit exclusivement sur telle console, et en fait, 6 mois après, elle arrive sur l'autre. Ça, c'est plus des histoires de marketing.
Ouais, mais pour le joueur, qu'est-ce qu'il en a à faire? Lui, s'il est sur Xbox, il veut pas aller sur PS4, il veut pas changer juste pour une exclusivité. Ou alors, c'est une exclusivité qui est tellement importante qu'il va lui faire franchir le pas d'aller acheter une seconde console.
Ben, c'est à ça qu'elles servent les exclus. C'est à forcer les joueurs à venir. Actuellement, si t'as une Xbox One ou une PS4, le catalogue sur les gros jeux est relativement similaire, ce qui n'était pas le cas. au lancement. Moi, par exemple, qui joue beaucoup à des jeux indépendants, l'Xbox 360 était la console à avoir pour jouer à des jeux indés, alors que la PS3 n'avait que dalle. Et quand la PS4 est sortie face à la Xbox One, eh ben, les gros jeux indés étaient sur PS4. Tous les jeux Devolver n'étaient que sur PS4. On pouvait jouer à Warforce, etc. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a la barrière technologique. Aujourd'hui, une Xbox et une PS4, les jeux peuvent être faits à partir des mêmes moteurs. Enfin, grosso modo, si je fais un jeu sous Unity, par exemple, j'appuie sur un gros bouton, schématise, hein, c'est pas aussi simple, mais j'appuie sur un gros bouton et je sors une version PS4, j'appuie sur un gros bouton, je sors une version Switch, et j'appuie sur un gros bouton, je sors une version PC. À l'époque de la PS3 et de la 360, c'était deux façons de coder complètement différentes. Donc si on sortait sur l'une, il fallait déjà l'amortir avant de la sortir sur un autre. Donc il y avait un choix à faire dès le départ, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, Stadia doit forcément pas fonctionner comme une console normale, et passer de Stadia à une console et vice-versa doit demander, je pense, de l'optimisation si on veut que ça fonctionne correctement.
Ouais, mais au côté joueur, on n'a pas d'intérêt d'avoir des exclusivités, on a l'intérêt d'avoir un catalogue large et pouvoir passer d'une plateforme à une autre sans se soucier de savoir quel type de console on utilise. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre comme critique. Je comprends financièrement parlant pour les développeurs, pour les vendeurs de consoles, tout ça qui crée des exclusivités, mais pour le joueur, il a rien à gagner d'avoir une exclue en particulier.
Ah, il y a toujours eu le plaisir des guéguerres des consoles. Quand moi j'étais à l'école, fallait avoir une Super NES ou une Mega Drive. Et aujourd'hui, il y en a, ils sont tout contents de dire j'ai celle-là ou j'ai celle-là, mais c'est juste pour jouer à qui c'est qu'elle a la plus grosse.
C'est ça, hein, ouais, c'est donc il n'y a aucun intérêt. C'est ça.
Mais moi je pars du principe que ce qui fait une console, c'est son catalogue, c'est pas la machine en elle-même.
Ouais, ouais, ok. D'accord, ok, je comprends. J'adhère pas, mais je comprends complètement qu'on puisse vouloir quelque chose que l'autre n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut parler un petit peu de nos tests maintenant, parce que ça fait une bonne petite heure qu'on en parle. Qu'est-ce que tu veux ? Tu voulais me dire, tu en as déjà parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu peux me dire du peu de temps de jeu que tu as sur Stadia ? Et est-ce que aujourd'hui tu le conseillerais à tes amis qui sont visiblement des gros gamers, face à moi en tout cas, ils sont forcément des gros gamers.
Alors, mes copains qui sont gros gamers, je vais pas leur conseiller parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. On va dire sur les gros joueurs qui sont déjà joueurs PC, qui ont déjà des ordi ou qui ont déjà passé le pas pour aller chez Shadow ou qui attendent que Shadow réouvre ses portes pour y aller, qui voulaient vraiment à tout prix avoir les derniers jeux, etc. Parce que pour l'instant, ce qu'eux ils attendaient, c'était le 4K qui était promis par Stadia et qui est pas encore là.
Et pourquoi il n'est pas là ? Enfin, parce qu'il est promis, c'est un problème. Encore une fois, ils n'ont pas activé pour des raisons d'infrastructure ou c'est parce qu'ils ont menti ?
Je pense que ça arrivera à long terme. Il y a une histoire de structure. La deuxième chose, c'est qu'il y a une histoire de débit. Ils annonçaient qu'il fallait 10 mégas pour pouvoir jouer tranquille. Moi, j'en ai 12. Sur Samurai Shodown, c'est pas vraiment jouable. Et Destiny, vraiment aucun problème. Par contre, là-dessus, c'est pas fait. Ils ont tout un travail à faire avec les développeurs pour être sûr que la connexion internet qu'ils annoncent soit suffisante. Et ensuite, moi, j'habite pas une grande ville, tu vois, j'habite à la campagne. J'ai plein de copains qui habitent pas forcément des grandes villes. Tout le monde n'a pas la fibre. Et la 4K, je crois qu'il va falloir un débit internet qui est quand même un peu costaud et qui va pas forcément être adapté à tout le monde. Et encore, on est en France. En France, le débit internet, quoi qu'on en dise, il est plutôt très bon. Si on compare avec les États-Unis, qui a un très très grand territoire à couvrir et qui a beaucoup plus de problèmes d'infrastructure, le problème risque de se poser autrement.
Oui, forcément. Ouais, mais forcément. Pour revenir au problème de débit, tu l'as sûrement vu, vu que t'as navigué dans l'application. Aujourd'hui, moi, par exemple, pour jouer, j'expliquerai comment je joue tout à l'heure, mais pour jouer sur Stadia, j'ai un débit qui est encore plus faible que le tien. J'ai changé les paramètres pour avoir du 720p, un truc comme ça. Je crois que c'est plus bas. Pour avoir un. Est-ce que toi, tu as changé pour avoir ça, pour tester sur Samurai Shodown?
Alors non, j'ai pas trifouillé parce que justement je voulais voir ce qu'il était capable de faire tout seul.
D'accord.
Il fait un peu comme un Netflix sur le party streaming, c'est-à-dire que comme moi j'ai pas une connexion fibrée, quand je démarre un épisode de Netflix, au tout début, les 3 premières secondes, il est tout pixelisé, ouais. Et au bout de 5 à 10 secondes, il s'est stabilisé et il est propre.
Ouais.
Et ben j'ai fait un test pendant que je jouais, j'ai lancé une mise à jour à côté d'application sur mon téléphone juste pour voir si ça pompait un peu de débit et voir comment Stadia allait réagir. Donc à ce moment-là, dès que je lance une mise à jour, le jeu se pixelise.
Ouais.
Parce qu'il a moins de bandes passantes forcément. Et quand vraiment il a deux doigts de lâcher, il y a un petit message d'alerte qui vous dit attention, votre connexion est instable, le jeu risque de couper. Donc Stadia prévient quand même quand on a une connexion qui n'est pas très stable.
Ouais.
Après, j'ai bien vérifié que tout était coupé, qu'il n'y ait pas de mise à jour, qu'il n'y ait pas d'ordinateur qui tourne en arrière-plan ou tout ça. Quand effectivement, il n'y a que Stadia qui tourne sur les 10 mégas, ça tourne. Par contre, il faut qu'il n'y ait rien d'autre. Si jamais quelqu'un dans la maison allume Netflix, c'est foutu.
Ah oui, bah forcément, déjà Netflix ça prend.
Ouais, voilà, c'est pour ça que je prends l'exemple de Netflix parce que c'est un truc qui pompe le plus. Ouais. Mais on avait un copain qui habitait à la campagne, quand on jouait en ligne sur Xbox, c'était le même problème. Ouais. Hein. Dès qu'il se mettait à ramer, en lui disant déconnant, bah tiens, ta mère allumait la télé. En fait, c'était vrai.
C'est vrai.
Dès que sa mère allumait la télé. Et ça, c'est un problème qu'on va toujours connaître le temps que les serveurs se stabilisent et s'optimisent et le temps que la fibre se développe en France, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a la fibre qui est en déploiement, il faut juste attendre que ça arrive. Ouais. Mais pour le coup, pour avoir une connexion qui est pas folle, j'ai pas trop à me plaindre, enfin pour bosser ça suffit. Moi qui pensais que ça allait être trop juste pour Stadia, si c'est juste à vérifier qu'il n'y a pas de Netflix qui tourne en même temps, moi ça me va. Et vraiment, j'ai bien senti la différence entre Destiny qui est complètement optimisé pour et qui tourne sans souci avec Samurai Shodown qui du coup, je pense, a pas pris le temps d'être optimisé parce qu'il n'était pas prévu au départ pour être un des jeux gratuits offerts. Vu que ça a été un peu rajouté au dernier moment, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de l'optimiser. Et c'est quelque chose qui peut se faire derrière. Nous, on ne verra pas les mises à jour parce que ce n'est pas sur nos serveurs que ça tourne. Mais si Google travaille effectivement avec les développeurs, ils peuvent très bien mettre leur jeu à jour et améliorer le code pour que ça soit plus adapté sur des petites connexions.
Bon, clairement, on voit qu'on est en mode bêta. C'est juste ça. Ils l'auraient communiqué dès le début. Je pense que les critiques auraient été moins vives. Ils nous auraient dit que c'était vous allez essuyer les plâtres, les gars. Tout le monde aurait été plus compréhensible. Bon, ça n'a pas été fait. C'est comme ça. Maintenant, il faut qu'ils rament. Moi, je vais te parler un petit peu de mon expérience Stadia parce que j'ai le même débit que toi. Je suis à 7 mégas. À 3 mégas près, c'est pareil, non? Eh ben non, c'est pas pareil, en fait. Parce que moi, à 7 mégas, il me dit simplement ta connexion, elle est pourrie. C'était pas la peine d'essayer de jouer. Donc, il m'éjecte tout simplement. Hein. Donc, du coup, à 7 mégas, ben, j'ai pas de Stadia. Alors, j'ai été obligé de tricher. J'aime bien tricher parce que je voulais quand même jouer à Stadia chez moi, dans mon salon ou dans mon bureau. Du coup, comme je te l'ai dit, pendant la préparation, j'utilise mon partage de connexion mobile. J'ai de la chance d'avoir aussi un bon réseau 4G. J'ai un bon réseau 4G, j'ai 67 mégas grâce à mon partage de connexion via mon téléphone portable. Donc du coup, j'utilise mon partage de connexion. Et je me suis dit, ça va pas marcher parce que Google a annoncé qu'on ne pouvait pas jouer, pour le moment en tout cas, à Stadia sur un réseau mobile. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je vais partager mon Wi-Fi, on verra bien ce que ça donne. Et tu le sais maintenant, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, ça marche. Et bizarrement, ça marche même très très bien. J'ai un débit qui est assez bluffant. Qui me permet, donc en moyenne je suis entre, ça oscille, hein, la 4G ça oscille beaucoup, je suis entre 22 mégas et 67 mégas, ça oscille beaucoup, mais ça me permet de jouer dans des conditions optimales. Alors je vais pas essayer à 4K, je suis pas assez fou pour ça, parce qu'à un moment mon opérateur mobile va peut-être me dire, Nicolas, faut arrêter, hein, tu viens déjà de cramer tes 100 gigas en l'espace de 15 jours, peut-être que va falloir te calmer, hein. Il y a marqué dans mes conditions générales, une utilisation illimitée en bon père de famille. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, parce qu'il y a des pères de famille qui font boire leurs enfants, fumer, drogue, tout ça. Moi, je fais pas ça, donc je peux être considéré comme un bon père de famille. Par contre, je consomme des gigas. Donc pour l'instant, ils m'ont pas éjecté. Ça me ferait mal d'ailleurs. Mais ça marche vraiment super bien. Je m'éclate dessus. Et pour te donner une idée, donc comme je t'ai dit au début, je suis en qualité. Je sais pas comment ils appellent ça, la qualité sur Stadia, basse qualité, non pas basse qualité, consommation de données limitée. En gros, ils me disent clairement, hein, vous allez consommer 4,5 gigas par heure. Et bah, c'est vrai, c'est vrai. Je joue 2 heures, je craque 9 gigas. Donc ça fait vite mal, ça fait une belle claque à mon forfait mobile, mais je suis en illimité, donc c'est pas un gros problème. Et là où je suis vraiment bluffé, c'est que ça fonctionne et sans latence, en tout cas à mon niveau, hein, je ne suis pas un gros joueur, je suis un joueur occasionnel, mais quand je veux jouer, je veux que ça marche, et sur ma 4G, ça marche très bien. Alors je suis allé un petit peu plus loin parce que j'ai commandé le pack fondateur, je l'ai reçu, j'ai le Chromecast Ultra et la manette, et moi je voulais jouer sur ma télé. Bah ouais, c'est prévu pour ça. Sauf que comme je vous l'ai dit, je n'ai que 7 mégas sur mon réseau Wi-Fi à la maison en réseau fixe. Donc du coup, bah, j'ai été obligé de tricher. J'ai installé mon Chromecast sur ma clé Wi-Fi et je fais du partage de connexion sur mon téléphone. Et j'ai pris un autre téléphone pour installer Stadia, qui est lui-même sur le même réseau que mon hotspot Wi-Fi, pour installer la manette. Et voilà, ça marche. Bon, c'est un peu alambiqué, je vous l'avoue, mais ça marche très très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Au niveau de la jouabilité, moi je suis super bluffé sur Destiny 2. L'autre, je suis très mauvais, donc je vais pas en parler. T'en as très bien parlé, Gaëtan. Je vais te parler d'un autre jeu que j'ai acheté. Je vous l'ai dit dès le début, j'avais teasé. J'ai acheté Guilt. Je sais pas si tu veux un petit peu savoir ce que c'est. Enfin, j'imagine que tu en as entendu parler.
Oh, moi j'ai déjà bien regardé. Hein.
Ouais, enfin c'est génial, hein. C'est bluffant, c'est super bien fait. En gros, t'incarnes une petite fille qui a perdu sa sœur. Ça fait un mois qu'elle a perdu sa sœur, mais plus personne dans la ville la recherche, sa sœur. Donc genre, elle est partie, tant pis. Elle a disparu, elle a 8 ans, mais c'est pas grave. Donc c'est assez bizarre. Et puis, ça commence, c'est un petit scénario assez sympathique. Ça commence, la fille, tu la vois mettre des affiches, je recherche ma sœur, aidez-moi, tout ça. Et puis il y a des petits enfants qui se moquent d'elle, et puis elle prend son vélo, elle fuit parce que les enfants se moquent de plus en plus, ils la pourchassent pour faire quoi, on sait pas trop, mais ils la pourchassent. Et puis à un moment, elle se vautre dans un ravin et là, ils la cherchent pour lui faire peut-être du mal, on sait pas. Et là, elle décide de s'évader par un truc que plus personne ne prend depuis des décennies, c'est-à-dire un funiculaire. Je vois même pas l'intérêt d'avoir ça, mais bon, peu importe. Il va dedans et elle revient sur la ville et là, la ville est complètement en désordre. Elle nous cite, en gros, il y a peut-être eu un tremblement de terre. Mais bon, on sait pas trop, elle continue, elle arrive jusqu'à l'école et là elle voit sa sœur à l'étage de l'école, elle rentre dans l'école et là c'est là que le jeu commence. Par contre, toute la cinématique d'avant est vraiment superbe. Moi j'étais assez scotché par cette cinématique, très beau. Alors comme disait la personne qui était à côté de moi, il me disait non mais ça c'est une cinématique, hein, c'est pas le jeu, t'en mets pas. Bah ouais, mais dans le jeu c'est quand même plutôt beau. Tu stresses un peu, t'as la petite fille, bah la seule arme qui est là c'est une lampe torche. Alors c'est pas pour taper avec la lampe torche, hein, c'est pour faire peur aux monstres qui l'attaquent, genre les monstres de ton cauchemar. T'es quand tu dors mal, t'as un cauchemar, bah c'est ça, t'as un monstre bizarre qui vient t'attaquer comme ça. Et c'est un jeu de... Je sais pas comment l'expliquer, c'est un jeu où t'avances d'énigme en énigme. Genre, t'es dans une pièce, il faut que tu trouves le moyen d'arrêter la vapeur d'air chaud pour passer dans les canalisations d'aération. Bah, cherche, en fait. Faut trouver comment tu fais pour avancer. Et je sais pas, c'est un nom, ces jeux-là, j'imagine, tu sauras mieux que moi. Et c'est vraiment superbe. Et t'as des cinématiques type bande dessinée en plein milieu qui viennent couper, puis t'amener un peu plus de films, enfin d'explication au jeu, et c'est vraiment très très bien fait, et ça vaut vachement le coup. Je pense que ça vaut les 29,99€ que j'ai lâché dès le premier jour. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah achetez-le, hein, si vous voulez l'essayer, le mieux c'est de l'essayer. Moi j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que je t'ai donné envie de l'acheter ce jeu?
Oui, mais moi j'avais déjà envie avant. Je pense que c'est un des premiers que j'achèterai.
Ouais, je te conseille de le prendre. J'ai pas beaucoup d'heures de jeu dessus, mais j'ai vraiment été surpris par la qualité du jeu, les petites animations, jeter de canettes pour envoyer le monstre ailleurs. En fait, il y a pas de combat, en fait. Il y a jamais de combat, à part les monstres qui viennent sur toi pour te tuer. Bon, on peut dire que c'est un combat quand même. Mais toi, tu es une petite fille de 8-10 ans. Tu peux que le repousser de tes mains avec ton petit doudou dans la main droite et tu repousses avec ta main gauche. Donc, tu imagines la force que tu peux avoir. Et donc, elle va jouer de stratagèmes pour les éloigner avec des canettes qu'elle va jeter dans un coin pour les attirer ailleurs, avec des bruits qu'elle va faire dans un autre sens. Vraiment, vraiment bien fait. Et je vais continuer là-dessus parce que j'ai écrit un article qui est encore pas en ligne sur My Chromebook. Mais ce que je pourrais dire sur Stadia, mais c'est vrai pour plein d'autres plateformes, et c'est peut-être ça que je regrette aussi parce que c'est vrai pour plein de plateformes, c'est que si tu achètes un jeu sur Stadia, au début, je me suis dit, tiens, je vais l'acheter, et puis si ça me va pas, bah tant pis, j'aurais perdu que 30 balles. Mais tout le monde n'a pas 30 balles à mettre dans un jeu et puis de se dire « Ah ben merde, j'ai acheté un truc pourri. » Bon bah tant pis, j'ai perdu 30 balles. Donc tu peux évidemment, comme sur Steam, comme je sais pas les autres plateformes, te faire rembourser ton jeu. Ça c'est plutôt intéressant. Donc si tu veux faire un test, Gaëtan, tu achètes ton jeu, il te coûte le prix du jeu, tu as deux solutions, enfin il faut qu'il y ait t'as deux choses à avoir pas fait en fait pour pouvoir te faire rembourser. Il faut que tu aies joué moins de 2 heures à ton jeu. Ou est que tu l'as acheté dans les 15 jours. Donc tu peux te faire rembourser jusqu'au 15e jour et si tu n'as pas joué plus de 2 heures. Donc ça peut être intéressant pour faire un test en fait, savoir si le jeu te convient ou pas.
Là, c'est quelque chose qui existe aussi sur Steam, mais qui n'était pas en place au départ.
Ouais.
Et qui a été décrié pour tous les petits jeux qui se finissaient en moins de 2 heures.
Ah ouais.
Parce que les mecs les faisaient, ils les rushaient et ils se faisaient rembourser. J'ai pas de stats actuellement pour savoir si c'est bien le cas ou non. Mais là, vu qu'on est quand même sur un support qui est beaucoup plus lié à des problèmes technologiques, là, suppose que je le prenne et que le jeu soit pas optimisé par Stadia du tout et qu'il rame trop, que j'arrive pas à jouer, bah au moins je peux me faire rembourser, c'est pas perdu du tout.
Ouais. Mais j'ai découvert ça. Alors, par contre, c'est très alambiqué hein, pour se faire rembourser. Moi, bêtement, je pensais que, au début, j'ai cherché sur le téléphone, donc l'application Stadia, par là où tu achètes les jeux, parce que tu peux l'acheter que par l'appareil, pas par l'interface Chrome. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais en tout cas, il faut le savoir, tu ne peux pas l'acheter sur Chrome, directement sur l'application Stadia. Et donc, moi, je me suis dit, bah, si je les achète par là, bah, je vais me faire rembourser par là. Ben non, que nenni, ma foi, comme diraient les franc-comtois. Il faut aller sur le Google Play Store, en fait. Tu vas sur le Google Play Store, mais pas sur le Google Play Store d'Android. Hein. Non, non, sur le Google Play Store de Chrome. Il faut aller sur la page web, en
voilà,
fait.
Ah, t'as été chercher loin, dis-donc.
Ah ouais, mais je voulais me faire rembourser. Enfin, je voulais savoir si on pouvait se faire rembourser. Donc, il faut aller sur le Google Play Store. Tu vas dans ton compte, dans historique d'achat, et là, tu as ton jeu qui apparaît. Et à droite, tout à droite, t'as le petit bouton menu, tu cliques dessus, se faire rembourser ou annuler son abonnement, son achat, je ne sais plus exactement le terme. Et là ensuite, il te demande mais pourquoi tu veux te le faire rembourser. Et puis bah tu sélectionnes et puis il te le rembourse instantanément. Et enfin instantanément, j'ai pas vérifié parce que je me suis pas fait rembourser. J'ai cliqué jusqu'au bout puis au moment où il m'a dit cliquez ici pour valider, je l'ai pas fait parce que je veux garder le jeu donc je l'ai pas fait. Mais voilà, c'est un peu compliqué quand même pour se faire rembourser. C'est pour ça que bah c'est la première chose que j'ai cherché à faire. Moi j'aurais aimé personnellement que j'ai une démo jouable, tu sais, comme à l'ancienne. Alors ça se fait peut-être encore, moi je me souviens quand j'achetais des jeux, des revues de jeux vidéo dans mon drugstore, j'ai acheté mon jeu, il y avait un CD dedans avec plein de démos jouables. Je sais pas si t'as connu.
Si.
Ça existe toujours d'ailleurs
plus dans les magazines.
Merde,
La 360 avait des modes démo qui étaient très cool. Moi, quand je venais d'avoir une 360, du coup, j'ai téléchargé plein de démos pour meubler, entre guillemets, parce que j'avais pas les moyens de m'acheter plein de jeux. Je suis pas sûr que ça existe sur Xbox One et PS4.
Bah, tu vois,
je te dire, la Xbox One, le problème, c'est que vu que maintenant j'ai un abonnement Xbox Game Pass, je ne pose même plus la question.
Ouais, tu vois,
je vais dans le catalogue, j'appuie, voilà. La Switch a un mode démo.
Ah, bien.
Et c'est quelque chose qui est à peu près apprécié, donc c'est possible que ça revienne.
Moi, j'aurais vu ça, tu vois, le mode démo, tu joues une heure ou une demi-heure, tu vois, pour éviter les rushers de jeu. Tu joues un laps de temps qui te permet quand même de savoir si le jeu te convient, te plaît, et si le gameplay te ravit. Et qu'à la fin de cette tranche horaire, t'es un gros pouf, tu te mets sur pause, et là on te dit, ben si ça t'intéresse, maintenant faut passer à la caisse. Moi j'aurais préféré ça, à la rigueur, c'était plus honnête.
C'est ce que faisait la 360.
Ouais, ben voilà. Si Google m'entend, puisque je sais qu'ils nous écoutent, puisqu'ils écoutent tout le monde de toute façon, il y a mon assistant derrière qui s'est activé quand j'ai dit le mot. donc vu que vous m'écoutez, Google, faites un mode démo plutôt qu'un remboursement de jeu. Moi je trouve ça plus intéressant. Et au-delà de ça, tiens, tout à l'heure on parlait des fonctionnalités qui ne sont pas encore mises en place. Il y en a une qui m'avait vraiment interpellé, c'était le fait qu'un peu à la manière de Twitch, que les youtubeurs puissent jouer à leur jeu en ligne et que tu puisses les rejoindre directement, voire jouer, acheter le jeu immédiatement juste en cliquant sur se connecter à mon compte et puis acheter le jeu et puis jouer directement. Ça me manque, et si ça peut venir, ça peut compléter le mode démo, si tu veux. On voit le gameplay du joueur.
Alors c'est clairement prévu, ouais. Hein. Parce que quand tu crées ton compte, une des quelques questions qu'ils te posent, c'est qui peut t'ajouter en ami ? N'importe qui peut t'ajouter. Est-ce que n'importe qui peut t'envoyer une invitation pour jouer, ou est-ce que c'est uniquement tes amis et tous les joueurs ? Enfin, ils ont vraiment bien découpé toutes les étapes de qui peut voir à quoi tu joues. Si je suis youtubeur, j'ai pas forcément envie que tout le monde voit à quoi je suis en train de jouer. Si je suis en train de préparer une vidéo et que je vais faire une surprise, du coup, je peux faire en sorte que peut-être seuls mes amis peuvent voir à quoi je joue, mais que tout le monde puisse m'envoyer une invitation.
D'accord.
Enfin, c'est vraiment assez bien découpé. Quand on est sur l'interface Chrome, on peut revenir dans les paramètres et modifier toutes ces choses-là.
Ouais, donc c'est vrai, c'est ce qui va arriver, quoi.
Ouais, alors je sais pas si tu as essayé de passer par là, parce que moi j'ai pas encore acheté de jeu, j'ai que les jeux gratuits. Mais si tu passes par le paramètre de Chrome, tu as un historique des achats.
Ah non, je suis pas passé par là.
Ouais, moi j'ai farfouillé un peu dans les menus. T'as quelque chose sur ta consommation de données et la qualité. Tu peux régler un peu. A priori, il y a un contrôle parental qui existe.
Ah, ça c'est bien.
Donc j'ai pas exploré, mais en tout cas, il y a bien ça dans les menus. Il y a une fonction utiliser un code, donc utiliser un code, souvent ça c'est beaucoup pour les journalistes, pour papier les jeux, mais il y aura peut-être moyen de faire d'offrir des jeux.
Ah, ça c'est bien.
Ouais. En prenant le jeu et en offrant le code.
Ah, effectivement.
Ça me semble être quelque chose qui devrait pouvoir se faire. Il y a un mode famille, pareil, qui n'est pas très expliqué. C'est quelque chose qui est sorti sur Android il n'y a pas très longtemps. On peut partager sa bibliothèque avec sa famille.
Ah, tu m'intéresses.
Je sais pas si t'avais vu ça. Moi qui suis gros consommateur de jeux Android, essentiellement des jeux narratifs, tu peux faire en sorte que quand toi t'achètes un jeu, il soit accessible aux membres de ta famille.
Exact. C'est très bien pour Stadia. Donc, tu penses que si j'inclus quelqu'un dans ma famille, moi je paye l'abonnement pro parce que ça m'intéresse, donc j'ai la remise sur le jeu potentiellement. Je peux le partager à quelqu'un qui fait partie de ma famille, ami, famille, tout est relatif, et lui pourra jouer gratuitement au jeu.
Ben, il semblerait que ça soit lié à ce qu'ils appellent le compte familial Google. Donc, je pense que même si c'est pas en place immédiatement, c'est quelque chose qui sera en place à long terme. Donc, moi, typiquement, mon frère, il joue moins que moi, mais il me demande, tiens, qu'est-ce qu'il y a de sympa comme jeu et tout. Il pourrait très bien profiter de mes jeux.
Et donc, ça apporte un truc. Est-ce que d'autres consoles, est-ce que d'autres le font, ça? Steam, par exemple, puisqu'on peut dans le même esprit.
Alors, Steam, non. Sur Xbox, il y a un mode. Non, sur Switch, il y a un abonnement famille, mais qui est plus pour l'abonnement pour jouer en ligne.
Donc, oui, puisque tu payes ton abonnement en ligne.
Bon, il existe des. Il existe des façons détournées de faire ça sur Xbox, mais elles ne sont pas très officielles. Mais effectivement, tu peux tricher en mettant une console en principale et le compte d'un copain dans une autre. Et en fait, quand il y en a un qui télécharge le jeu, il arrive sur deux consoles. Enfin, nous, avec des potes, on a triché un peu comme ça et ça permet de se prêter des jeux et même des abonnements live. Mais c'est pas très officiel comme méthode, on va dire. Enfin, en tout cas, on voit qu'ils ont prévu plein de choses quand on va fouiller dans les menus. Ouais. Il y en a la moitié de grisé qui n'est pas encore en place. Il y a un système pour bloquer les joueurs, il y a tout ce qui est amis, confidentialité, ça peut se reparamétrer derrière si jamais j'ai changé d'avis, inviter un jeu, à faire appel à une liste d'amis. La recherche d'amis, elle est assez simple.
Tu m'as mis en ami d'ailleurs et je viens d'accepter.
Vraiment en termes d'interface, on retrouve le savoir-faire de Google. Et surtout, chose que je voulais en parler, j'ai failli oublier. Quand j'ai arrêté de jouer d'un support à l'autre, ou même quand j'arrête de jouer, Google envoie une mini-enquête tout de suite. C'est-à-dire, il y a un pop-up qui s'ouvre et qui te dit « Êtes-vous content de votre session de jeu ?» Ça va de très médiocre à très bon. De mémoire, il doit y avoir très médiocre, médiocre, correct, bon, très bon. Donc, on coche ce qu'on veut. Et juste derrière, il y a une liste de problèmes et on peut cocher le problème qu'on a eu. Donc, sur Samurai Shodown, effectivement, j'avais des décalages, des décalages d'images et de mini-freeze. Donc, là, j'ai pointé, effectivement, ça met des petits freezes. On peut mettre malheureusement qu'un seul défaut à la fois. Donc, je pense que ça va servir à savoir quel a été le plus gros problème et à savoir ce qu'eux traitent en priorité. Sur Destiny, j'ai pas eu de ralentissement, mais effectivement, il y a 2-3 moments où c'est un légèrement pixelisé. Donc, c'est quand il doit y avoir une légère baisse de débit. Donc, j'ai pointé, effectivement, il y a une baisse de débit. Mais le fait qu'ils demandent ça après chaque session de jeu ou même chaque changement d'écran, parce que moi, quand je passais du PC au Chromebook et du Chromebook au PC, ils m'ont posé la question à chaque fois, ça va leur permettre, eux, de savoir sur quoi bosser, d'avoir des feedbacks et d'améliorer le service assez rapidement.
Ouais, ça, j'y ai pas pensé, mais effectivement, t'as raison. J'y réponds plus parce que sur Destiny, moi, comme je te dis, ça marche très bien. J'ai rien à dire de mon point de vue, mais je suis pas un gros gamer, donc j'ai pas d'exigence énorme. Mais ouais, c'est vraiment une bonne idée. Autant se servir des utilisateurs. Donc c'est là que tu vois que t'es bêta testeur.
Hein. Ah, complètement, c'est une grosse affaire.
Ouais, c'est ça. Donc... Non, c'est bien. Ok, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur Stadia. Je crois que c'est tout. En tout cas,
Moi, de ce que j'ai exploré pour l'instant, c'est tout. Je suis agréablement surpris parce que je ne pensais pas que ça marcherait si bien avec ma connexion Internet. Moi, les principaux freins que je vois actuellement, c'est encore le prix des jeux. C'est-à-dire que même s'il y a quelques petits jeux pas très chers, le jeu le moins cher est à 30 balles. Donc, pour conquérir des gens qui n'auront pas l'abonnement pro, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, je vois pas l'intérêt dans mon cercle d'amis et de joueurs, etc. Je pense que c'est ou ils prendront un abonnement pro ou ils prendront pas Stadia du tout. Mais le prendre juste pour acheter un jeu à 70 balles que je jouerai sur un onglet Chrome, je pense pas qu'il y aura grand succès là-dessus. Par contre, s'ils continuent de déployer 2 jeux par mois avec l'abonnement à 10 balles, ça va très vite se propager chez mes copains. Et surtout, on parle toujours de Stadia avec le Chromecast. L'onglet PC, on en parle assez peu, mais ça veut dire que si, par exemple, je vais demain chez un pote à l'autre bout de la France, chez mon frère ou chez quoi que ce soit, et qu'on veut jouer à un jeu, et j'ai juste à ouvrir un navigateur, même chez quelqu'un d'autre, et à connecter mon Stadia, il faut juste que j'ai mon téléphone pour pouvoir vérifier peut-être connexion, je pense. Mais ça veut dire aussi que c'est une espèce de vu qu'elle est en cloud, on a vraiment l'avantage du cloud à pouvoir y avoir accès de partout, y compris sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment, enfin, c'est
limite sur l'ordinateur du boulot, mais on devrait pas le lire.
Non, on fait pas de toute façon ça. Hein, on fait pas. J'ai essayé pour voir, ça marche bien. Si vous m'entendez, chef. Par exemple, si je reviens sur le prix des jeux. Je voulais m'arrêter là, mais tant pis, tu m'as relancé. On vient sur le prix des jeux. Regarde, tu prends un jeu, je prends n'importe lequel. Il y en a un, je vais prendre les premiers qui viennent sous la liste. Qu'est-ce que c'est, ça? Je vais prendre le premier au-dessus, là. Assassin's Creed. Donc, a priori, il coûte 69€, mais tu me l'as dit, il coûte moins cher maintenant. Mais si j'ai l'abonnement pro, il est à 35€. Alors, peut-être que c'est son prix commercial habituel, j'en sais rien. Par contre, ça veut dire que si j'ai pris l'abonnement Stadia Pro, donc qui me coûte 10 balles, 10€, 9,99€, j'ai fait quand même une économie de 24€, quoi. Même pas, 34€, pardon. Donc, ça vaut le coup de prendre l'abonnement Stadia Pro, ne serait-ce que pour bénéficier des promotions.
Oui. Enfin, les promos pro sont vraiment violentes. Enfin, violentes au bon sens du terme, hein. C'est que le tarif est vraiment avantageux. Moi, j'étais plus sur en fait le prix moyen des jeux. C'est-à-dire que le jeu le moins cher, il a 19€. Et ça me semble être déjà un palier un peu élevé pour que ça puisse se développer. Après, ils sont alignés sur le reste. Thumper sur PS4, il est à 20€ aussi.
C'est le moins cher.
C'est ça. Ouais, j'ai pris le jeu le moins cher. Il est sur PS4, il est à 19,99€. Sur Stadia, je crois qu'il est, ouais, il est à 19,99€ aussi, exactement au même prix. Donc, ils sont alignés sur des choses, mais par contre, pour l'instant, il n'y a pas de petits jeux. C'est-à-dire que même les quelques indés qui sont dessus, Thumper, Guilt, voilà, ça reste quand même des trucs à au moins 20 balles.
Ouais, évidemment, ouais. Mais ça, comme tu le dis, j'ai bon espoir qu'à force d'offrir des jeux, là, ils en offrent que deux pour ouvrir les serveurs petit à petit. J'imagine qu'au lancement, on aura un catalogue de 22 jeux gratuits avec Stadia Pro, parce qu'il n'y en aura que 22, voire un peu plus. J'imagine bien qu'ils fassent des choses comme ça, en fait. Question qui me vient aussi comme ça à l'esprit, tu vois, par exemple, si j'ai acheté Tomb Raider, il vaut 19€ en Stadia Pro. Ce qui m'interpelle, c'est que donc là on est, alors je vais être dans le délai de rétractation si je l'avais acheté aujourd'hui, mais admettons je l'ai acheté le premier jour d'activation, donc on est au premier du mois, et le mois d'après il me l'offre, ce jeu, en tant que Stadia Pro. Qu'en est-il de la somme que j'ai payée il y a un mois? Et c'est ça qui me chagrine un petit peu aussi.
C'est ce qui existe déjà chez les concurrents. Tu l'avais acheté, tant pis pour toi, tu l'avais acheté.
Ouais, merci, ça fait mal, hein. Mais oui, ok, je comprends.
Mais quand Microsoft a sorti ça, effectivement, je sais plus si c'est Microsoft ou PlayStation qui l'a fait en premier. Enfin, moi j'avais une Xbox à l'époque, donc c'est surtout sur l'Xbox que j'ai connu. Mais par exemple, ils disaient, tiens, le jeu du mois, c'est Gears of War et machin. Mais moi, Gears, j'avais déjà. Donc, tant pis pour moi.
Oui, mais c'est le jeu des promotions, de toute façon.
C'est le jeu du truc. Et surtout, je pense forcément que l'offre va évoluer, parce que là, Stadia fait office d'alpha. Pour le cloud gaming, mais la concurrence arrive. C'est Shadow qui a ouvert la porte véritablement, qui ne fait pas du stream de jeu, mais qui a commencé à faire du cloud gaming. Google et gros arrivent avec des moyens qu'ont pas les autres, mais il y a Microsoft qui arrive derrière. Microsoft n'a pas annoncé grand-chose à l'E3 en termes de jeu, par contre, ils ont beaucoup éclairci leur vision des choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà le Game Pass, qui est une idée absolument géniale pour les joueurs, qui s'est très très bien développé, le Game Pass PC, le Game X-Cloud. Pass Xbox, et eux ils ont le, je crois que ça s'appelle le X-Cloud, qui va grosso modo être un Stadia chez Microsoft, et qui risque à long terme d'être croisé avec le Game Pass et de faire une offre monstrueuse. Et je pense que si Google en face,
ce qui est positif, c'est que Google arrive, fait bouger les marchés. C'est toujours comme ça, le dernier arrive.
De toute façon, la concurrence a toujours du bon, hein, ça les forcera à se bouger. On ne sait pas ce qu'en est de Sony, on se doute bien que Sony est en train de s'inquiéter du truc. Ils ont modifié le prix du PSN il n'y a pas longtemps. enfin, je ne sais plus exactement quel service, mais ils ont bien compris que Stadia arrivait et ils ne voulaient pas se faire manger, ils ont commencé à baisser les prix. Shadow a fermé ses portes, s'est mis en suspens le temps de restructurer et de revenir avec une offre toujours aussi efficace, mais qui soit un petit peu moins chère. Donc, l'arrivée de Google, même si ça ne fonctionne pas parfaitement, ça va au moins faire évoluer le marché au niveau de la concurrence, qui vont se forcer à se dire « Ah ok, il y a Google dans la course, il va peut-être falloir qu'on se bouge et qu'on fasse quelque chose. »
Bon, bah tout est bon, alors que ça soit Stadia ou un autre, finalement, ça va être tout bonheur pour tous les joueurs. On va s'arrêter là, ça fait 1h20 qu'on enregistre, Gaëtan, il va falloir qu'on te laisse partir, quand même. Oui. On en refera un enregistrement d'ici quelques semaines, quelques mois pour donner notre ressenti peut-être sur Google Stadia et les évolutions, puisqu'il y en aura, hein, clairement, et peut-être parler de ce qui va arriver ensuite sur Micromove grâce à ça, on sait pas. C'est bon, t'as encore des choses à rajouter ou cette fois c'est bon, c'est fini?
Ah non, ouais. Moi c'est bon déjà.
Ça sonnait comme un ordre ce que je disais. Tu arrêtes. Encore plus bavard que Thomas. Enfin bref. Je te remercie déjà Gaëtan d'être venu échanger avec nous. Alors je vais t'appeler chez moi pour qu'on te retrouve sur My Chromebook, hein, puisque c'est ton nom de scène chez moi.
Pas de souci.
Où est-ce que d'ailleurs on te retrouve à part My Chromebook? Est-ce que tu veux qu'on te retrouve ailleurs ou non, t'as pas envie et t'as pas envie de discuter avec les gens? Là ça fait genre t'as pas le choix, t'es obligé de dire que t'as envie de discuter avec eux, sinon ça fait hermé.
Ah, faut que je dise oui par politesse,
c'est ça. Tu donnes un faux compte, on s'en fout, hein, un faux compte.
Non, mais ça m'intéresse aussi. J'ai un compte Twitter.
Ok, merci.
Ça doit être le plus simple. Ouais.
Voilà. Est-ce que c'est facile à dire ou tu veux que je le mette uniquement dans les notes de l'émission?
Non, mais c'est facile, c'est chez moi, @CHEZMOA.
Facile, chez moi.
Voilà. Vous n'aurez pas de mal à me trouver.
Donc, attends-toi à avoir des milliards de questions. Enfin, non, peut-être pas. Mais attends-toi à avoir quelques questions, on ne sait jamais. Thomas n'est pas avec nous aujourd'hui physiquement, enfin, claudiquement. Ouais, puisque on travaille dans le cloud aussi pour les enregistrements. Il n'est pas avec nous, mais vous le retrouvez sur Léthargique Panda. Et puis moi, j'officie sur mychromebook.fr. C'est là où vous me retrouvez le plus. Vous pouvez poser des questions sur le forum, poser des questions sur chaque article, sur Telegram. Vous me retrouvez aussi sur Nico Chromebook. Et puis, petite chose avant, parce qu'il faut payer l'abonnement de Gaëtan. Alors, je vous invite tous, petit moment pub. Il faut qu'on lui paye son abonnement et sa manette. Il faut rentabiliser ses heures de jeu. Donc, Mychromebook, vous le savez, est entièrement financé par un financement participatif sur Tipeee. Si vous voulez nous rejoindre et nous entendre de plus en plus souvent Gaëtan parler de sa passion des jeux vidéo parler des Chromebooks en général, hein, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, cliquez dessus. Vous pouvez à partir d'un euro financer nos différents épisodes et puis ça nous ravit tous les jours de voir qu'un nouvel utilisateur aime ce qu'on fait et aime ce qu'on lui dit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, tu veux que je te donne le mot de la fin, peut-être? Ouais, je vais te donner le mot de la fin. C'est la première fois que t'es là. Je te laisse dire au revoir à nos éditeurs. Moi, je vais vous dire à tous au revoir et à très bientôt pour le prochain épisode du CKB Show.
Eh ben, au revoir et jouez bien.